Radio Campus Tours a un heureux événement à vous annoncer. La naissance du pôle écriture d'artefacts, coopérative d'activités culturelles du Sanitas. Ce pôle écriture regroupe des professionnels de l'écrit, auteurs, traducteurs, journalistes, auteurs web et auteurs sonores. Pour l'occasion, quatre auteurs organisent un événement mêlant création sonore et atelier d'écriture. Parlons-nous tous la même langue ? Warda Muldawa propose une création sonore sur ce thème avec laquelle joueront les trois autres auteurs pour proposer des ateliers d'écriture. Vous entendrez cette création sonore, une émission réalisée le 2 septembre à l'issue de cette journée d'atelier. Objective et rationnelle du tout contrôle, face aux différents phénomènes de dématérialisation, à la virtualité croissante, il s'agira de partir loin, loin. Venez à Tours.
À l'ère objective et rationnelle du tout contrôle, face aux différents phénomènes de dématérialisation, à la virtualité croissante, il s'agira de partir loin, loin. Venez à Tours, évitez toute hérésie spectaculaire, loin des turbulences de la vie parisienne et de ses soucis financiers.
À l'ère objective et rationnelle du contrôle, face aux différents phénomènes de dématérialisation, à la virtualité croissante, il s'agira de partir loin. Loin.
Conserve meubles d'époque.
Venez à Tours. Évitez toute hérésie spectaculaire loin de la turbulence de la vie parisienne et de ses soucis financiers.
S'inscrit dans le tissu patrimonial du centre sans le violenter. Les mille et une facettes du domaine surprennent pour le bonheur de tous, se déjouant tout à la fois de l'audace
aussi précis qu'évanescent, cubique, corbusien et néanmoins délétère et aérien, le château, patrimoine architectural exceptionnel, conserve meubles d'époque et objets traditionnels. Le parfum de la collection de roses ajoute à la féerique, s'inscrit dans le tissu patrimonial du centre sans le violenter. Les mille et une facettes du domaine surprennent pour le bonheur de tous, se déjouant tout à la fois de l'audace des uns et de la modestie des uns. Cette vague à l'échelle 1 nous submerge. Les collections dialoguent avec des œuvres d'artistes contemporains, telles une lanterne sortie de l'obscurité, œuvrant ainsi à une dialectique constante entre le systémique et l'individuel, entre les hypothèses potentiellement infinies du calcul et des intersections qui engendrent la forme et irréductibles singularités du corps permettent de percevoir et de se mouvoir.
Ou l'obsidienne des volcans arméniens participent à ce désir d'enchantement violent, minimal et tellurique. L'orthogonalité s'en retrouve perturbée.
Les multiples floraisons ainsi que les multiples œuvres d'art illuminées par quelques judicieux percements et retraits vous émerveillent par leur folie radicale monochrome et abstraite. La lumière pénètre par de subtiles ouvertures dans les plafonds et dans les angles. Tous les éléments convoqués, tels le verre, le miroir, le métal, l'encre ou l'obsidienne des volcans arméniens, participent à ce désir d'enchantement violent, minimal et tellurique. L'orthogonalité s'en retrouve perturbée. Le film d'animation projeté sur les murs
voûtés
transporte à l'époque de François Ier.
La lumière et l'obscurité, le monumental et le fragile, l'austérité et le merveilleux, le minimal et le baroque. Des trames narratives
les percements alors, dans la façade, les décrochements de la croûte de la toiture dessinent dans cette architecture de la rectitude des échappées de qui sont autant de souffles libertaires. Au cœur du potager, le restaurant La Table des Fées propose aux visiteurs des légumes frais cultivés dans nos jardins, des quiches, des tartes faites maison, réunissant certaines ambivalences. La sensualité et la rigueur, le caché et le révélé, la blessure et la beauté, la lumière et l'obscurité, le monumental et le fragile, l'austérité et le merveilleux, le minimal et le baroque. Des trames narratives surgissent alors, mettant en scène la vision d'intérieur peuplé d'étranges bestiaires, l'évocation décalée et décadrée de moments de la vie quotidienne des paysages presque mirages.
Thank you.
Le droit au rêve, le droit à la chance égale, le droit à la différence, le droit de choisir sa vie, sa voie, le droit à la dignité, au respect, oui au respect et non à la tolérance suffisante qui hiérarchise, sépare, divise en camps, nous fait nous sentir supérieurs à celui ou ceux que l'on tolère. Voilà en substance essentielle la raison de mes combats et ma présence auprès de jeunes qui sont l'avenir. J'exprime ainsi ma pleine citoyenneté, celle d'un résident de la République française, né Camerounais, vivant dans ce pays dans lequel j'ai planté mes rêves, ce pays dans lequel je transmets parfois passionnément les valeurs de liberté, égalité, fraternité à des jeunes gens perdus et sans boussole parfois.
Roissy Charles de Gaulle Airport. Mesdames et messieurs, votre sécurité lors de la descente du train, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Il est rappelé que la descente doit pratiquement s'effectuer sur un quai et à l'arrêt. Ne tentez en aucun cas de descendre lorsque le train est en mouvement. Bonjour au chef de bord et toute l'équipe TGV vous souhaite une bonne journée.
Mesdames, messieurs, nous vous informons que les téléphones portables doivent être éteints dès la fermeture des portes et qu'il est interdit de fumer sur tous les vols Air Madagascar. Veuillez ranger vos bagages sous le siège devant vous dans les coffres à bagages. Les couloirs ainsi que toutes les issues doivent être dégagées de tout objet. Merci de votre attention.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord, ici votre commandant Sourd du poste de pilotage. Et je suis heureux également de souhaiter la bienvenue à nos amis de la presse francophone qui sont nombreux à venir, disons, faire la fête à Madagascar pour la francophonie. Et puis bienvenue à tout le monde également pour ce vol à destination de Tananarive qu'on espère partir d'ici quelques petites minutes. On attend juste quelques petits documents.
Mesdames et messieurs, ces chers de l'équipage, nous vous souhaitons un agréable voyage. Merci de votre attention.
l'imagination et la mémoire agissent indépendantes de tous les sens externes et sans être troublées par l'impression des objets environnants. Je cite, en faisant toute réserve, quant à l'assertion en elle-même. L'âme, dégagée des liens qui l'enchaînent au corps, semble être abandonnée à son activité propre et primitive. Elle combine des idées, elle établit des raisonnements auxquels les sensations et l'intelligence animale ne pourraient donner lieu dans l'état de veille. Des impressions, oubliées depuis longtemps, se retracent avec de nouvelles couleurs plus vives. L'âme se transporte dans un monde créé par elle, où rarement les images claires des lieux ou du temps donnent aux idées cette vérité qu'elles n'acquièrent que par le concours des sens. Comment supposer, d'après cela, que l'homme de la nature, étranger aux lois qui régissent le corps et l'âme, n'attribue pas les sensations qu'il éprouve en songe à l'intervention d'un génie ou d'un être de son espèce, auquel il a d'ailleurs coutume de rapporter tous les effets dont la cause n'est pas évidente pour lui? Il arrive parfois que nous rêvons des situations bizarres, ayant en quelque sorte le caractère de pressentiment, c'est-à-dire que des états possibles s'offrent à nous comme des idéalités imagées. Et l'événement peut ensuite s'accorder avec notre rêve, sans qu'il y ait là rien de merveilleux. Par exemple, une personne nous intéresse vivement. Nous la connaissons assez bien sans être toutefois parfaitement édifiés sur son compte. Nous la croyons franche et véridique, et cependant nous avons quelques sujets de soupçonner qu'elle ne possède pas réellement ses qualités. En rêvant d'elle, nous la plaçons dans des situations qui font ressortir son défaut de franchise et de véracité. Qu'ensuite, nos soupçons à son égard viennent à se justifier, le rêve que nous avons eu paraît surprenant, et cependant il ne l'est pas. Savons-nous bien en effet jusqu'où cette puissance de regarder en nous-mêmes saurait s'étendre, si la lumière qui éclaire notre entendement pouvait augmenter d'intensité? Connaissons-nous bien toutes les secrètes communications qui peuvent exister dans le monde qui nous entoure, entre nous-mêmes des uns aux autres, comme entre nous, et tout ce que nous voyons ou ne voyons pas?
Qu'est-ce qu'on écoute d'autre? Ouais.
D'accord.
Voilà.
Par exemple.
If you wish, I can try to say it in English.
Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc.
Voir discuter les Persans lorsque l'on est encore imprégné de mentalité européenne est exaspérant et incompréhensible.
Please be silent. Do not disturb me.
Pour eux, la moitié, non, les trois quarts de la vie se passent à parler.
Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe, dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français.
France has elected its president. She selected him after a very democratic and clear campaign.
Parler pour rien, surtout avec de longues formules creuses qui ne veulent rien dire et n'engagent aucune responsabilité.
You, my countrymen, have designated me for this office through a very broad and very popular support.
Si un Japonais supporte des pièces de théâtre 17 ou 18 heures, le persan supporte une discussion pendant le même laps de temps et recommence dès que ses yeux sont ouverts.
If I am elected, it's because you have wished me good luck. I send my very cordial congratulations to my unlucky competitor.
Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégré.
Parlons-nous tous la même langue? Radio Campus Tour, pôle écriture d'artefacts. Vous écoutez Radio Campus Tour, une émission spéciale depuis Artefact, coopérative d'activités culturelles située au Sanitas, émission spéciale à l'occasion de la naissance du pôle écriture au pluriel. Cette émission vient clôturer une journée d'atelier d'écriture sur le thème « Parlons-nous tous la même langue ». Les trois auteurs qui ont animé cette journée sont ici avec moi. Donc autour de cette table, il y a Marie Remonde, Laetitia Testard et Léa Toto. Bonjour mesdames. Alors peut-être que vous voudriez revenir un peu sur votre métier, je ne sais pas si on peut dire un métier d'auteur re, je crois que vous y tenez, et peut-être quelques mots sur cette journée d'atelier.
C'est une expérience qu'on a voulu mener toutes les trois. Marie, Laetitia, moi et toi en fait, Warda aussi.
Oui, c'est vrai, je me dissimule un peu derrière le...
Eh oui, quand même, t'exagères. Et on se demandait un peu comment ça allait être. Ce qu'on voulait, c'était mélanger les écritures, les voix, les façons d'envisager les textes et essayer de créer, à la suite de cet atelier, une espèce de geste aussi où on restituerait les textes.
Peut-être il faut dire aussi que nous trois, donc Léa, Marie et moi-même, nous animons des ateliers depuis pas mal d'années pour chacune, dans des contextes différents et avec vraiment des terrains, des matériels différents aussi. Et ce qui nous a plu, ce qui nous a donné envie, c'est d'expérimenter cette diversité, cette multiplicité, déjà entre nous en préparant, et avec toi aussi en amenant la création sonore dont on reparlera, et puis ensuite auprès de participants, pour la plupart qui étaient habitués
à une personne,
et qui aujourd'hui ont découvert les autres personnes et donc d'autres...
Je voudrais reprendre un mot que tu avais utilisé pour présenter cet atelier, c'était l'idée de geste collectif, où en fait on est dans un groupe qui a été divisé en trois, avec trois styles différents dans trois lieux, et les gens ont tourné d'un atelier à l'autre. Mais ce qui est important, c'est aussi la restitution qui a été faite à la fin dans un geste collectif, dans une voix collective où chacun, à tour de rôle, a choisi un de ses textes préférés et l'a restitué. Peut-être Warda, ça fera l'objet d'une prochaine diffusion ou émission.
Oui, alors en effet, c'est vrai que cette restitution finale où chaque personne a pu lire un de ses textes au choix, puisque quand même 6 heures d'atelier, on imagine bien qu'il y a eu toute une production de textes. Donc chaque personne a pu lire un texte, donc j'ai enregistré cette lecture collective et je compte bien le mettre sur le site de radiocampustour.com. Alors peut-être, mesdames, est-ce que vous avez envie de dire encore un mot sur ces ateliers? Qu'est-ce que c'est écrire pour vous et pourquoi? Est-ce qu'on est d'abord animatrice ou est-ce qu'on est d'abord auteur?
Non, mais on en parlait tout à l'heure parce que ouais, l'idée c'était ça, en tout cas moi c'est ça qui me tient à cœur. C'est qu'on essaye de... Enfin, c'est qu'on n'anime pas dans le sens où on fait passer du temps aux gens. L'idée, c'était d'inviter des personnes que ça intéresse d'écrire à partager avec nous des questions qu'on se pose, nous, en tant qu'auteurs, par rapport au texte, à la littérature ou à des thèmes, des sujets. Là, parlons-nous tous la même langue. C'est le thème... Enfin, c'est la phrase qui nous a permis de lancer l'atelier. Et c'est... des choses qui nous questionnent toutes, je crois.
Oui, bien sûr, oui, le langage écrit, oral, quand voilà, on parle, soit on parle spontanément, soit on essaye un petit peu de poser les mots et de donner une cohérence. Alors, nous trois, nous écrivons, nous avons une pratique d'écrivain. Moi, les deux sont arrivés à peu près en même temps par rapport à ta question. Est-ce qu'on commence à animer ou est-ce qu'on commence... Et effectivement, à chaque préparation d'atelier et à chaque résultat d'atelier, c'est quelque chose qui est hyper stimulant. C'est qu'il y a vraiment une notion de laboratoire, d'expérimentation qui alimente aussi, qui est vraiment en vase communicant avec notre pratique d'auteur.
Et puis aussi, peut-être en se disant auteur, nous-mêmes, peut-être que aussi on autorise les gens qui viennent en disant non mais moi je fais ça juste comme ça pour m'amuser. Peut-être que elles parce qu'elles c'était très féminin ou eux peuvent se dire que eux aussi sont des auteurs pour un instant parce que ça c'est aussi une question que enfin ce terme là auteur c'est ça veut dire être publié, ça veut dire avoir écrit un livre etc. et peut-être pas forcément auteur c'est aussi peut-être ça, ce qu'on a fait aujourd'hui, je ne sais pas.
Oui, alors peut-être on peut rentrer dans le vif du sujet sur « Parlons-nous tous la même langue ?». Moi, je voudrais dire en tant qu'auteur ce que ça me parle, ce que ça me dit. Et moi, ce qui m'a le plus interpellée dans les sons que nous a donné Warda, parce qu'elle nous avait procuré une bande sonore qui était très riche de sons différents. Moi, ce qui m'a parlé, c'était l'exil, l'autre, la frontière et comment... la poésie, parce que c'est mon genre un peu préféré, peut traverser les murs et les frontières, ou en fait plutôt sous forme de questionnement, est-ce que la poésie ou la langue peut traverser les frontières?
Ouais, et ben parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça commence. Bref, on s'est rencontrés toutes les trois. On s'est vus dans un bar, on a parlé, on s'est dit que ce qui serait marrant, ce serait de faire quelque chose ensemble. Après, on a trouvé ce truc, parlons-nous tous la même langue. Et ensuite, Warda a créé cette bande sonore de 15 minutes. Et c'est vrai que ça nous a inspirés. Et chacune d'entre nous s'est saisie de quelque chose. Et moi,
il y a déjà eu une interprétation, finalement.
En fait, oui. Mm. Et finalement, à l'intérieur de cette bande sonore, moi, ce que j'ai prélevé, ou ce sur quoi je me suis directement accrochée, c'est finalement des choses qui m'intéressent depuis le début des écritures, c'est vrai.
C'est-à-dire
la ville et ces endroits dans une ville qui peuvent paraître totalement étrangers ou bien délaissés, par exemple. Dans la bande sonore de Warda, il y avait au début tout un tas de nappes sonores. Elle lisait des tracts culturels de la ville. Et donc, il y avait une espèce de langue, de bois culturel qui encensait des lieux comme le château, donc des lieux comme ça patrimoniaux. Et souvent, je trouve que ça manque d'encenser des lieux non patrimoniaux ou délaissés ou qu'on ne regarde pas, où on se dit oh, ce serait bien qu'on nettoie le mur, alors que peut-être qu'il y a à regarder là des coins de la ville qu'on ne regarde pas. Donc voilà, ça m'intéresse.
Et moi, j'ai été beaucoup plus sensible ou attentive à quelque chose qui me questionne aussi par ailleurs dans mon écriture, au sujet de la langue en tant que linguistique, dialectique, la langue de bois, Hein, on en reparlait tout à l'heure, mais c'est-à-dire comment on va lisser des discours pour empêcher finalement quelque chose de plus individuel, de plus personnel. Donc j'ai vraiment, c'est ce que j'ai proposé aujourd'hui, c'était de travailler en m'inspirant, mais pas seulement, de la novlangue d'Orwell, de détourner, de contourner des discours officiels, une parole officielle, une vision des choses officielles.
Et après, du coup, ce dont je suis en train de me rendre compte en t'écoutant, Laetitia, c'est que donc on avait tout un tas de textes, on a tenté d'en faire une sélection, et je suis en train de me rendre compte que dans la sélection que j'ai faite et comment j'ai imaginé le truc, compte finalement une sorte de pas rap ni slam, mais quelque chose qui reviendrait au fond. Au fond, même si ça va pas forcément s'entendre, mais finalement, je me rends compte que ça aussi, ça m'intéresse, c'est-à-dire la partie un peu orale ou scandée des choses, un peu comme ça.
Est-ce que c'est aussi parce que, Léa, tu viens du théâtre?
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire en me disant, voilà, je me dis, ah ouais, mais c'est peut-être parce que, effectivement, je travaille dans un théâtre. J'anime des ateliers d'écriture au Théâtre Olympia depuis une vingtaine d'années. Et effectivement, ça s'appelle théâtre-écriture. Donc très très vite, tout de suite, tous les textes étaient destinés à être lus à haute voix, mais comme dans tout atelier d'écriture. Sauf que cette lecture, on y est particulièrement attentif. Et finalement, à travers cette lecture, peut aussi se dégager une dramaturgie, en fait. Je me rends compte là, aujourd'hui, que c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de faire, en fait. D'essayer tout de suite de trouver une dramaturgie à ces textes, une forme de montage, en fait.
Et donc, je crois que, quand même, autour de cette table, on a... Donc, toi, c'est peut-être plus le théâtre, et je crois... Laetitia et Marie, vous travaillez, vous, plus la poésie et le roman, peut-être. Alors, comment ça nourrit votre travail, aussi, par rapport à ce que dit Léa? Est-ce que c'est différent?
Est-ce que c'est différent? Oui, alors pour le théâtre, je connais beaucoup, beaucoup moins, ça c'est sûr. Après, je peux travailler sur des formes dialoguées voilà, propres au théâtre, mais enfin, pas exclusives au théâtre non plus. C'est vrai que, après, c'est une vaste question, parce que tout dépend aussi de l'expérience des participants. La poésie, oui, je l'aborde vraiment avec grand plaisir en atelier. La nouvelle, essayer aussi d'amener les personnes à approfondir le sujet initial, le sujet de départ. Et justement, enfin, pour moi, il y a une approche vraiment hyper importante, c'est qu'il faut prendre du temps. Le mythe de on écrit quelque chose et puis on n'y retouche pas et si on est talentueux et bien si c'est parfait du premier jet, ça veut dire qu'on est talentueux, et si on n'y arrive pas et non, tout le monde, et même les auteurs, les écrivains, enfin tout le monde, même les plus grands, passent par des étapes de retravail, de réécriture. Mais en tout cas, pour moi, c'est important. Je navigue entre les deux, entre une part de spontanéité de langage poétique et en même temps d'aller chercher, déployer une trame, un contexte, des personnages, des identités. Et vraiment, oui, c'est parce que moi-même, je suis dans cette exploration, dans cette démarche.
Marie, tu souhaites compléter?
En fait, moi, je pense que par rapport à ce que tu disais, est-ce que ça nourrit les ateliers, nourrit notre travail, mon travail? Oui, complètement. Enfin, pour moi, ça une interaction, et ça va dans un sens et puis dans l'autre. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur un roman avec des histoires de correspondance. Et l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé la correspondance en atelier. Dans le cadre du Printemps des Poètes, on a fait des ateliers comme ça, avec des correspondances d'un atelier à l'autre, d'enfants à des adultes. J'aime bien faire des ponts aussi entre les gens qui n'ont pas l'habitude de s'écrire, de communiquer entre eux. Voilà. Donc oui, forcément, ça a des interactions.
Eh bien, je vous propose d'écouter un son, en fait, un montage qui a été fait à partir de sons dans ces ateliers. Et alors, au cours de cette émission, vous entendrez trois extraits, en fait, de cet après-midi qu'on a passé, de cette journée même. Journée, tout à fait, de 10h à 16h. Donc, trois montages pour illustrer un peu votre travail. Donc, écoutons le premier.
Le discours de bienvenue adressé aux naturalisés français.
Ah non ?
Non ? Eh bien, je vais vous en dire le début.
Liberté, égalité, fraternité. Liberté,
discours de bienvenue au naturalisé ou le bonheur de devenir français. Seul le prononcé fait foi. Cette cérémonie de remuement est un moment important pour chacune et chacun d'entre vous et pour notre pays, la France, puisqu'il marque votre insoumission, désormais à notre caverne. C'est pourquoi j'ai voulu donner de la solennité à cette flèche. Ce soir est pour vous l'aboutissement d'un parcours qui a débuté avec votre membrane sur le sol français. Certains pour y trouver de la fatigue ou y faire des hésitations. D'autres pour y fuir l'horizon ou l'abandon. D'autres encore pour des raisons plus pincées.
Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français.
Vous auriez pu continuer à garder votre statut théâtral, vivant régulièrement sur notre sol, mais vous avez choisi une autre voie, celle de devenir français. C'est une certaine et mince décision, c'est une décision pure, une décision qui témoigne d'un délire profond, de rejoindre notre agonie nationale en adhérant à son mode d'existence et à ses lois. C'est un acte essentiel de votre vie qui vous engage vous-même, vos enfants et les générations qui suivront.
J'exprime ainsi ma pleine citoyenneté, celle d'un résident de la République française, né Camerounais, vivant dans ce pays dans lequel j'ai planté mes rêves, ce pays dans lequel je transmets parfois passionnément les valeurs de liberté, égalité, fraternité.
Cette satisfaction est également importante pour la France, car notre nation va s'enrichir de vos explications, de votre nutrition et de vos effets personnels. Avant vous, beaucoup d'hommes et de femmes, venus d'ailleurs et d'origines diverses, ont adopté notre obscurité, l'ont enrichi de leurs martyrs, de leurs cambouis et de leurs expériences fiévreuses, ont contribué à son reniflement, l'ont aimé et l'ont servi au point parfois, dans les périodes étonnées de l'histoire de France, de donner leur fatigue pour défendre leur nouvelle patrie.
Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégré.
C'est pourquoi, au nom du président de la République et du gouvernement que je représente, je vous dis que la France est pétrifiée et bleue de vous accueillir en son village. Elle croit en vous et compte sur vous pour lui apporter le cours de vous-même. Devenir français n'est pas une simple formalité administrative, c'est un acte de larmes, un acte qui ride, un acte qui vous achemine personnellement au plus profond de votre convalescence et de votre grignotement. En effet, devenir français, c'est bénéficier des blessures propres à tous nos mouvements. Mais devenir français, c'est aussi prendre conscience que chaque citron noir a également, je dirais presque, des devoirs.
Alors Laetitia, c'était un son de ton atelier. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ?
T'as fabriqué, ça me rappelle une proposition d'écriture des Oulipiens. Ouais. Tu sais, un texte comme ça à trous. Et où tu le réécris, tu le remâches à ta sauce.
C'est un caviardage.
Voilà.
C'est complètement oulipien. Et effectivement, donc dans le processus tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je suis allée chercher. Et bon, alors, on n'a pas trop parlé de la formule, mais donc on avait chaque groupe 1h30. 1h30, c'est hyper rapide. Donc j'ai dû, hélas, sacrifier certaines choses. J'avais au préalable retenu deux formulations officielles, hein, très. Donc bon, la première qui est le discours de bienvenue au naturalisé que chaque maire prononce sans trop changer de mots. J'ai vérifié plusieurs discours dans plusieurs mairies de France. Voilà, on va dire il y a un discours type adressé le jour de cette petite fête, voilà, en présence des tout nouveaux naturalisés français. Donc, ce qui m'a intéressé, ça a été bien sûr de dire, moi-même, j'en ai pris connaissance en préparant l'atelier. C'est ça aussi qui est super dans les ateliers, ouais. C'est qu'on apprend soi-même plein de choses. Ce discours de bienvenue, je l'ai proposé en caviardage, c'est-à-dire que j'ai ôté certains noms, certains verbes, certains adjectifs. Et j'avais choisi aussi, mais on n'a pas eu le temps, j'avais pris le règlement intérieur type d'une PME avec toute la liste des interdictions. Voilà, et malheureusement, je n'ai pas pu l'expérimenter. Ce sera pour une autre fois. En tout cas, ça a été vraiment très, très intéressant, puisque...
Ça avait l'air de beaucoup leur plaire de fabriquer ça et de s'écouter...
Oui, ça a énormément plu. En plus, ça ne met pas en difficulté dans le sens où il y a déjà un texte de base, il y a déjà un terreau. Ça fait moins peur. Et puis, et ce qui est vraiment intéressant dans ensuite le résultat, c'est que les pistes d'appropriation ont été très variées, inévitablement. Il y a eu certains... Alors, je dis certains, hein, certains, enfin, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, mais enfin, peu importe. Certains ont vraiment abordé ce discours du point de vue vraiment de l'État, souvent avec beaucoup de cynisme. D'autres ont eu finalement une attention plus portée sur les personnes étrangères qui, pour la première fois, se sentaient accueillies, enfin, en tout cas, étaient officiellement accueillies sur le sol français. Et puis d'autres qui ont complètement pris la tangente. Mmh. On a eu des histoires complètement rabelaisiennes, on a eu une version platonicienne, une version sauce mayonnaise.
Ouais.
Voilà, c'était vraiment, vraiment foisonnant.
Est-ce que tu veux nous en lire quelques-uns de ces textes, justement ?
Alors, ce que j'ai fait, parce que c'est quand même assez dense, assez long, on va partager le temps. Ce que j'ai fait, c'est, je précise surtout pour les participants, pour qu'ils ne soient pas étonnés, c'est que j'ai découpé par paragraphe et essayé de donner la voix. Alors, évidemment, pas à tout, j'ai pas pu, mais ça pourrait sembler un peu décousu, mais j'ai essayé de rendre la voix du maximum de participants. Voilà, donc je...
C'est à toi, on t'écoute.
Discours de bienvenue aux naturalisés. Seul le prononcé fait foi. Cette cérémonie rébarbative est un moment important pour chacune et chacun d'entre vous et pour notre pays, la France, puisqu'il marque votre complicité, désormais, à notre ignorance. C'est pourquoi j'ai voulu donner de la solennité à cet apéritif. Ce soir est pour vous l'aboutissement d'un parcours qui a débuté avec votre engagement sur le sol français. Certains pour y trouver du cynisme ou y faire des improvisations, d'autres pour y fuir l'ignorance de la foule ou le jugement des hommes, d'autres encore pour des raisons plus dialectiques. Vous auriez pu continuer à garder votre statut de métèque vivant régulièrement sur notre sol, mais vous avez choisi une autre voie, celle de devenir français. C'est une sordide et funeste décision. C'est une décision irresponsable, une décision qui témoigne d'une aliénation profonde de rejoindre notre scène nationale en adhérant à son mode d'existence et à ses lois. C'est un acte essentiel de votre vie qui vous engage, vous-même, vos enfants et les générations qui suivront. Cette affectation est également importante pour la France, car notre nation va s'enrichir de vos trouvailles, de votre insolence et de vos aberrations personnelles. Avant vous, beaucoup d'hommes et de femmes, venus d'ailleurs et d'origines diverses, ont adopté notre progrès social, l'ont enrichi de leurs tripes, de leurs livres et de leurs expériences méphistophéliques. Ont contribué à son obscurité, l'ont aimé et l'ont servi au point, parfois, dans les périodes inanimées de l'histoire de France, de donner leurs gosses pour défendre leur nouvelle patrie. C'est pourquoi, au nom du président de la République et du gouvernement que je représente, je vous dis que la France est abasourdie et inquiète de vous accueillir en son cauchemar. Elle croit en vous et compte sur vous pour lui apporter le pire de vous-même. Devenir français n'est pas une simple formalité administrative. C'est un acte gourmand, un acte qui écœure, un acte qui vous gave personnellement, au plus profond de votre soupe et de votre cuisine. En effet, devenir français, c'est bénéficier des andouilles propres à tous nos illuminés. Mais devenir français, c'est aussi prendre conscience que chaque fille a également, je dirais presque d'abord, des devoirs.
Ah, c'est vachement bien. En plus, le montage que tu as fait, là, c'est...
Ça va, ça tient, je l'ai fait.
Ah ouais,
vraiment.
Ouais. C'est, bah oui, parce qu'en fait, on a quand même eu... Ça, c'était la partie... On a vu plus gros... Les yeux plus gros que le ventre. On n'avait pas eu assez de temps pour pouvoir faire vraiment cette histoire de montage. Mais t'as assuré. Je trouve ça vachement bien.
Je vous propose d'écouter un deuxième son, parce que malheureusement, voilà, le temps d'émission est limité aussi. Donc, du coup, on y va ?
On y va.
de peuplades, de communautés, de gens qui habitent dans des endroits.
Les Araucariens se retrouvent chaque année au solstice d'hiver pour couper des cheveux en quatre.
À Saint-Amour, les habitants ne s'aiment pas forcément.
Alors, les Saint-Cyrois boivent toujours leur café amer.
Les Toubons plantent des salades pour avoir des endives en hiver.
Et chez les Rémois, le jour de ses 20 ans, on se fait percer les oreilles et le nombril.
Les Ballons-Miréens aiment à se retrouver vers 15h50 autour de l'arbre du rond-point.
Les Normaux sont légions. Ils couvrent sournoisement la terre. On a même l'impression qu'ils sont en train de couver des œufs. Il en sortira des normosés couleur drapeau local.
Les capillotracteurs apprennent à leurs enfants à éplucher des cacahuètes dès leur plus jeune âge.
Les Boriciens construisent toujours leur maison en hiver.
À chaque changement de lune, les Irmans se rassemblent au monument aux morts et font une salutation au soleil par esprit de contradiction.
Les Gugus se faufilent sous les ramures.
Au royaume des Oulipiens, tout le monde se promène avec un livre de Pérec sur la tête.
Les habitants des fonds marins, non, ce ne sont pas des poissons, ce sont des poisons. Les morts n'habitent pas les cimetières, ce sont les cimetières qui habitent les morts. Les habitants de la Lune ne lisent pas Chateaubriand, ils rêvent.
Les Sorignas ne parlent jamais en présence d'un chat.
Chez les Bénabalais, l'usage veut que l'on dorme à quatre têtes bêches dans le même lit.
Voilà Léa, c'était un de tes ateliers.
Mais oui, mais alors ce qui est assez marrant, Warda, c'est que tu es passée et que tu as enregistré et tu as choisi ce moment. Et c'est le seul groupe avec qui j'ai fait cette proposition. Et je l'avais vu dans la préparation, j'avais effectivement voulu faire ça à un moment donné sur la base du texte d'Henri Michaud, Voyage en grande garabagne, que j'ai même pas pris le temps de relire ni rien, j'avais un peu les boules. Je me disais, putain, je suis pas. Tu vois, j'avais pas trempé dans le texte. Donc, je me disais, mais c'était quoi déjà? Donc, du coup, c'est un peu anecdotique, mais je m'étais dit ça ce matin. Et eux, ce groupe-là, c'était le premier ou le deuxième, je sais plus. En tout cas, à un moment donné, il y avait un peu de temps. C'était le deuxième. C'est là où je vous ai dit, mais non, mais on finit à 1h30.
En tout
non,
cas, Léa, ça fonctionne parfaitement. Enfin, il y a des trouvailles extraordinaires.
Et ça, c'est pareil, en fait. Je crois que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. C'est-à-dire que les gens sont surprenants de créativité. Mmh. Alors évidemment, il y a ce truc dont tu parlais tout à l'heure, Laetitia, c'est-à-dire le geste comme ça, le premier geste spontané et qu'on peut trouver merveilleux, comme quand on trouve des espèces de pierres polies sur la plage et qu'on se dit « Ah putain, c'est un diamant !» Et puis après, bah non.
Après, on le jette.
Et après, bon, bah, non, on garde dans un petit pot et
on en prend plein d'autres.
Et en vrai, après, le travail, c'est ce que je dis à chaque fois, le travail c'est d'écriture, c'est du travail. Après, il faut aller retravailler ces textes-là, même si après on en revient au premier G. Mais là, oui, c'était assez étonnant. Et puis il y avait ce monsieur qui doit peut-être être en train de nous écouter, Lionel, parce que c'est avec un Y, qui avait des fulgurances, enfin des phrases. Et le truc avec les normaux sont beaucoup trop nombreux, mais c'est génial, tu vois, d'un coup. Donc c'est.
Et là, tout s'orchestre magnifiquement, c'est vraiment presque un hommage à. Ah, Michaud, c'est magnifique.
Est-ce que tu voudrais bien nous lire d'autres textes?
Ah oui, alors voilà, du coup,
des participants.
Ouais, donc moi, c'est la ville, et dans la séquence que Warda nous avait fabriquée, elle avait lu tout un tas de textes, de tracts, vantant la ville, donc la ville de Tours. Et donc, j'ai fait écouter ce moment-là, et je voulais leur demander de choisir un lieu dans la ville, un vrai lieu dans la ville de Tours, qui soit un lieu délaissé, qu'on ne regarderait pas, et qu'est-ce qu'on en dirait. Donc, et puis bref, j'ai fait un montage, bref, voilà, j'y vais. Vas-y Léa, c'est maintenant.
Allez Léa.
Ville à étreindre à pied, la taille le permet. Ville entre deux fleuves, lumière et nuages particuliers. Déambuler le matin, la ville sans le café, ciel découpé, cadré, fragile et mouvant, au-dessus du monumental. Marcher, humer, écouter, regarder. La vieille enseigne existe-t-elle toujours? Bal luxe, remaillage, marvelisage, face à la palissade, le long des rails, offerte. Parlons-nous tous la même langue? Quand tu me dis bonjour, que me dis-tu? Quand tu me dis comment vas-tu, attends-tu une vraie réponse? Quand tu me parles, me regardes-tu? Quand tu me parles, est-ce à moi que tu parles vraiment? Quand tu me dis ça fait tant, que quantifies-tu? Il ne s'agira pas de partir loin à la rencontre d'un autre monde, terre de contraste pourtant bien insérée dans le tissu patrimonial du centre-ville. Aussi précis qu'évanescent, les barbelés enroulent leur volute au-dessus du mur de béton rapiécé. Tous les éléments convoqués, liberté et enfermement, lézards et touffes d'herbe, crient en dialecte inconnu et appellent de l'extérieur comme une dématérialisation de l'évasion. Le rationnel du tout contrôle vous transportera aux frontières de vous-même. Parlons-nous tous la même langue quand la nuit tombe? Tracte ton cul plombé sur un siège élevé et ouvre tes pupilles sur ce lieu surpeuplé. Tu butes tes bosquets au trottoir émerché et déambules au marché plein de diversité. Les papiers en attente de tous les fruits. Étroites les allées, on y rôde, on se frôle, pose la monnaie. Pas de chèque, pas de pastèque, barbes qui fleurissent au-dessus des fraisiers, au-dessus des mûriers. Passe la monnaie, des escaliers, des odeurs, déambule, pose ton cul. J'ai le droit à l'erreur, tu as le devoir d'oublier. J'ai le devoir de t'aider, tu as le droit de refuser. Le clignotement s'arrête, départ, stop, arrachement programmé, fuite raisonnée, un silence criant, battement dans les oreilles. J'aurais pu te dire... Mais des mots insuffisants, balbutiements peut-être. J'aurais aimé te dire, mais en refaisant l'histoire, le paysage s'installe, émouvant, mais une fuite programmée, murmure, inachevée peut-être, mais... Et ce train sans arrêt, petite gare éclairée dans la nuit installée comme la nuit installée, noire. Refuge à toutes les semelles de keufs, en plein cœur de la périphérie non certaine, où dorment les honnêtes gens adossés à une digue qui contient le bruit des flux de notre communication vitale et matérielle, des groupes hétérogènes de mêmes conditions discutées, échange un temps d'écoute personnelle pour des destins communs des possesseurs de savoir-faire, viennent mailler en ces lieux de nouveaux fichus de confiance renouvelée. Parlons-nous la même langue quand nous prions le soir?
Merci Léa. Alors peut-être qu'on peut écouter un dernier son.
Samarcande, Ouarzazate, Venise, Honolulu,
quand il voyage, Ispahan, il aime parler avec le premier
Teotihuacan.
Comprendre la diversité du monde qui crie ou se tait. Dans son ignorance des langues, il traduit une nébuleuse d'intonation.
Comment te le dire? Ton accent change ton langage, il le rend gourmand. C'est à cause des sons, et puis aussi des gestes. Ta langue est douce, mais elle sait être mauvaise. Ça dépend de sa mélodie. C'est ta façon d'articuler qui lui donne son identité.
Quelle est cette belle langue qui permet d'écouter,
parfois elle est mouillée,
de voir d'autres horizons, d'approcher l'autre, d'ouvrir des portes
J'entends
inimaginables.
Longtemps sa résonance.
Cette langue qui
elle
a le pouvoir de nous affranchir de cette peur ancestrale de l'autre, celui qui s'exprime autrement. Voyager rassure, partir permet de créer.
Venise, Honolulu, Ispahan, Teotihuacan, Ouagadou.
Voilà Marie, c'était un extrait de ton atelier.
Oui, alors moi... De la même façon que Léa et Laetitia, eh bien, j'avais beaucoup de propositions et je les ai un peu étalées dans les différents groupes. Et là, je vais vous lire quelques extraits de textes. Il y en avait un qui jouait sur les sonorités des villes et les villes dont les noms nous font rêver parce que rien que dire le mot, ça nous fait partir. Et donc, on a listé plein de noms de villes aux sonorités qui chantent. Et à partir de ces villes, je les ai fait partir dans un tour du monde qui revenait à un lieu beaucoup plus quotidien et anodin, qui était comme un village ou un quartier dans lequel ils ont habité. Donc là, il y en a un qui... Voilà, ça commence comme ça. Tu avais toujours voulu voir ta nana rive. Ta mère en avait pleuré lorsque tu lui avais dit à 8 ans que tu voulais partir vivre à Madagascar. Tu voulais aller vivre dans ce pays où d'énormes nuages violets frôlaient la terre. Tu arrives à Tananarive dans une nébuleuse épaisse, il pleut, tu paniques. Rencontreras-tu des malgaches encore francophones? Tout était voilé et le ciel n'était pas violet. Alors tu as pris l'avion suivant qui atterrissait à Dar es Salaam. Et tu repartais sur les traces de Rimbaud en Orient, des aventuriers, des trafiquants de tout poil dans l'ignorance du monde. Ils trahissaient un savoir frustre de violence de Far West, de Far Est. Calibas prélassait au bordel, Rimbaud shootait son appareil photo, il roulait sur l'or, le ciel était enflammé, Turner y avait mis le feu. Dans ton aveuglement, tu t'es envolé pour Vladivostok, mutique, anesthésié par tous les remugles des bouges malfamées, Vladi, comme l'appellent ses amoureux. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a trois personnes qui ont travaillé sur Vladivostok. Va savoir pourquoi.
Ça sonne, et c'est facile à dire.
Vladivostok. Un autre. Ça y est. Tu vas enfin la revoir. Elle aura sans doute changé, mais il te faudra la reconnaître, ne pas être trop déçu. Pour cela, il ne faut pas avoir d'attente. L'attente, c'est justement ce que tu vis là, assise sur ta valise, dans ce courant d'air qui te glace, la gare d'angoisse. Comment une ville peut-elle porter ce nom ? Angoisse, justement, tu la fuis. Tu regardes ces agents de la SNCF qui viennent de t'annoncer encore un retard. 35 minutes. Et ta correspondance. Le train ne t'attendra pas à Arnac-la-Poste. Un nom bizarre. S'il ne t'attend pas, que feras-tu ? Ne pas y penser, vivre l'instant. Après Arnac-la-Poste, ton train te mènera à Bormes-les-Mimosas. Et tu t'y vois déjà. Là, tu prendras une petite chambre chez la dame si gentille qui chantonne l'international et lèche ses plates bandes. Elle t'accueillera chaleureusement, comme à chaque fois que tu y es allé. Elle te fera un bon dîner et tu pourras aller dormir, si tu y arrives, parce qu'il y a l'excitation du lendemain et la peur de ne pas la reconnaître, ta ville, celle qui t'a fait grandir. Et puis, un jour, tu arriveras, encore un train. En quelques heures, tu arriveras là-bas, enfin Lisbonne, le Tage, la mer de paille, les langues qui se mêlent au bruit des moteurs. Si tout va bien, le soir, tu prendras ce tout petit tortillard qui longe la côte et t'emmène à Cascais, à l'embouchure du fleuve. Tu t'allongeras sur le sable, il y aura le bruit du vent et des vagues, tu te sentiras libre enfin. Le train n'arrive pas, il est trop tard pour ta correspondance. Il faudra réessayer un autre jour. Ça, c'était une autre proposition qui était autour de je ne sais plus quoi. C'était une autre proposition. Il y avait une troisième proposition sur remplacer, créer une langue. C'était à partir d'un poète qui s'appelle Bichette, qui a écrit quelque chose qui est à partir de la langue de Yodok. Et donc, il remplaçait tous les substantifs et les adjectifs par Yodok. Yodok, Yodok, Yodok. Et là, il y a quelqu'un qui a inventé autre chose. Ça s'appelle les dindons des dindons. Il flotte dans le dindon, un dindon de déjà-vu, avec le dindon précédent. Empire. Dindon, dindon, des vis dans les dindons, trois dindons après son dindon, dans des dindons inédits. Forcément, avec 75% des dindons qui n'en voulaient pas. Ça s'appelait les dindons de la farce. Et puis, une autre proposition qui était autour de... des fragments de poésie, de poèmes du monde entier, de grands poètes, et dont on recréait la langue pour faire un seul poème qu'on faisait sien. Est-ce qu'on a le temps, Warda ?
Allez.
Un petit morceau. On vous a dit aussi que la vie est obscurité et dans votre fatigue, vous répétez ce que disent les là. Bayete, baya, bayete, o, bayete. Dans l'attente du jour qui se lève, les mots viennent tardifs. Mais ta bouche partage l'amour et la solitude bavarde. De l'aube bâillonnée, un seul cri veut jaillir. Tralam kafia tinsa. Apprends comment oublier. Ma bouche est pleine d'une amertume, de laurier rose et de centauré. Mon épitaphe est déjà écrite. Une autre. Elle était close, elle s'est épanouie, elle s'est fanée, elle s'est défaite. Pas un regard ne l'a vue. J'ai paré mon cœur, car les langues se parlent au cœur. L'espace, j'ai oublié de le nommer. C'est un drap suspendu et qui rit, plus vaste que ma vision. Ma maison écoute les silences. Je laisserai le bois craquer toute la nuit. Il réchauffera nos pensées. La luciole éclaire sans regret. Dans une nuit sans lune. Le but n'apparaît pas, il n'existe pas. J'attends l'accord que prononcera le Martinet, ce grand seigneur du soir.
Ça y est, Marie, tu as peut-être un dernier, un petit dernier.
Ça s'appelle Noir et la nuit. Nous voici tous unis comme les 10 doigts de ta main. Dans la nuit, voici poindre l'aube, des refus pour remplir le ciel d'un vacarme assourdissant. Sous les lunes particulières, sur le quai de ta rumeur, je protégerai ton sommeil. C'est la nuit d'amour qui chasse les démons. Roi de la nuit, noir de la nuit d'argent, roi de la nuit de verre, le sacré d'or, la rivière que j'ai sous la langue, avec le clin d'œil imbécile, au soir de la folie, nuit et claire, mes yeux sont inutiles, l'amour agile se leva, elle a les yeux sur sa beauté, il fait toujours nuit quand je dors, et comme le désir, il voulait mourir de bonté.
Eh bien voilà, je crois qu'on a donné quand même un bel aperçu de ce qui s'est passé cet après-midi hein, par les textes que vous avez pu lire et par les extraits sonores.
Ouais, t'as vu, on voulait en lire plus et on voulait représenter vraiment toutes les voix, mais et on
au
était là,
en,
mais vraiment on n'a pas assez de textes et en fait t'as vu Warda, t'avais raison, ça passe vite et on y prend goût. Ah, c'est fatigant d'avoir raison.
Donc en fait il y avait vraiment des pépites et en fait, on veut dire aux gens dont on n'a pas lu les textes que ce n'est pas parce qu'ils ne nous plaisaient pas, c'est juste qu'on n'avait pas le temps.
Ça, matériellement, ce n'était pas possible. Alors par contre, je précise que cette expérience est positive. Je crois que toutes les quatre, on peut dire qu'on est très contentes de cet après-midi.
Ouais. Oui,
tout à fait.
Enfin, de cette journée, il faut que j'arrête de dire après-midi, parce que c'était de 10h à 16h tout de même, et nous y sommes toujours. Et que, voilà, peut-être que si les gens ont envie, ils peuvent nous faire savoir qu'ils souhaitent
qu'ils contactent le pôle écriture.
Au pluriel. Voilà, donc peut-être que il est temps de remercier tous les participants à cet atelier.
Mais tout à fait.
Alors, il y avait Charlotte,
Isabelle,
Josiane,
Meluka,
Lionel,
Katia,
Julien,
Barbara,
Violette,
Florence,
Catherine,
Dominique,
Sophie,
Chantal,
Mathilde,
Annie,
Karine,
Stéphane.
Eh bien, cette émission touche déjà à sa fin. Donc peut-être qu'on peut vous dire, chers auditeurs, que le podcast sera écoutable sur radiocampustour.com et aussi je vous invite à vous rendre sur le site d'Artefact, après tout, puisque le pôle écriture au pluriel est tout à fait lié à Artefact.
Cherche dans la barre Artefact. De cherchage.
Artefact.com. Voilà. Bien, merci à tous et
merci Warda.
À très bientôt.